Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, dans le cadre des émissions L'écho de ma commune, aidée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire. Jean-Marie Pilet et moi, nous recevons aujourd'hui dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel, Madame Agnès Damilly, candidate aux prochaines élections législatives de la deuxième circonscription d'Eure-et-Loire pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Bonjour madame et merci d'être là.
Bonjour à vous tous, merci infiniment de me recevoir. Je suis particulièrement touchée, particulièrement heureuse et honorée de venir ici puisque ma dernière activité a été pendant près de 3 ans au diocèse de Paris.
Vous étiez bénévole au diocèse de Paris ?
À Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, où je gérais en fait les activités d'une centaine de bénévoles qui s'occupaient principalement d'enfants autistes, d'enfants handicapés, de personnes en difficulté, de personnes de la rue, d'alcooliques anonymes. Donc une activité extrêmement riche et puis j'ai assuré le secrétariat général de la paroisse.
Un vaste sujet donc.
Oui.
Et vous faites aussi partie... vous avez fait partie, tout du moins, du mouvement Les Femmes avec Zemmour. Est-ce juste après votre rencontre avec Éric Zemmour ?
Alors, mon implication auprès d'Éric Zemmour, elle est très ancienne et elle est antérieure à la création du parti, puisque j'ai entendu parler d'une éventuelle candidature d'Éric Zemmour l'été 2021. À l'époque, je rêvais qu'il y ait une candidature soit de Philippe de Villiers, soit d'Éric Zemmour. Donc la suite des événements a été évidemment très heureuse pour moi. J'avais entendu dire qu'une certaine Diane Ouvry envoyait un certain nombre de lettres parlant des activités et des projets d'Éric Zemmour. Je l'ai contacté via LinkedIn et je lui ai dit voilà, j'ai un certain nombre de compétences suite à 30 années passées dans des groupes industriels, à des directions financières de groupes cotés en bourse et de filiales de fonds de pension. Donc je peux vous apporter du support juridique, du support financier, du support en contrôle de gestion en organisation, tout type de support bénévole bien sûr pour structurer un parti à venir et une campagne à venir, même si je n'avais aucune compétence politique puisque je n'ai jamais fait de politique jusqu'à ce que je m'encarte pour la première fois de ma vie le 4 ou 5 décembre, je ne sais plus, 2021.
Compétences politiques, est-ce que Éric Zemmour en avait ?
Alors, non, pas du tout. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'approche qu'a Éric Zemmour, c'est que Éric Zemmour est un analyste de la vie et des conséquences de l'histoire. Et à partir de ses analyses, il fait le constat d'un certain nombre de catastrophes auxquelles nous sommes confrontés et pour lesquelles il faut qu'on s'engage tous en politique, c'est-à-dire en gestion de la cité, pour changer les choses, pour faire en sorte d'avoir un pays plus éthique, un pays où on soit vraiment au service des citoyens. Et surtout, un pays qui se respecte, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de la France.
Mais Anticor le fait déjà, ça. L'association Anticor.
Alors, l'association Anticor le fait à la mesure de ses moyens, sans que le grand public voit exactement ce qu'elle fait. Je sais, par exemple, que Anticor actuellement est impliqué dans la région sur la recherche des raisons pour lesquelles Olivier Marleix a eu une aide financière de son père de 557 000 euros en 2011, à l'époque où il avait uniquement un petit canton à sa charge. 557 000 euros, il faut savoir que ça a représenté la moitié de l'ensemble des attributions du département à l'époque, alors qu'il y a 15 cantons. Donc ça n'est pas du tout normal et c'est surtout la plus grosse somme qui ait été allouée à une personne unique dans l'ensemble des subventions accordées en 2011 au titre des réserves et ministérielles et de l'Assemblée nationale. Donc il y a un questionnement qui reste. Anticor, qui, on peut en parler un peu plus longuement parce que c'est un vrai sujet. Anticor a pris un grand intérêt dans le rapport qui a été publié par Olivier Marleix en 2019. C'était un rapport très intéressant qui décortiquait l'affaire Alstom. Cette affaire est très très intéressante à divertir parce qu'elle est tout à fait symptomatique de la capacité qu'ont les gouvernants actuels de brader la France, de nous piller, d'être dans l'incurie totale, de ne pas se préoccuper de notre indépendance énergétique, industrielle, de notre indépendance même militaire, puisque aujourd'hui le sous-marin Charles de Gaulle est en difficulté à cause de la vente de toutes nos technologies d'Alstom à General Electric. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'Olivier Marleix, quand il a décidé de faire un rapport pour dénoncer tout ce qui avait été fait dans le cadre de l'affaire Alstom General Electric, a fait un rapport très intéressant, extrêmement documenté, tout à fait à charge contre le gouvernement Macron, ce qui était très bien. Ce qui est tout à fait anormal dans cette affaire, c'est qu'à l'époque, Olivier Marleix avait parfaitement connaissance du fait que les Pécresse s'étaient considérablement enrichis dans l'affaire. Il savait également qu'il s'était considérablement enrichi parce que la personne qui négociait chez General Electric, donc l'acheteur General Electric, le négociateur de l'achat était Clara Guémard, la femme de l'ancien ministre Hervé Guémard, donc une républicain, une LR républicain. Elle négociait donc avec Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse. Et dans ce cadre, Clara Guémard a promis beaucoup d'argent, beaucoup de promotions, beaucoup d'actions gratuites à Jérôme Pécresse. Et Jérôme Pécresse a eu, je dirais, l'indécence de s'engager dans une affaire dans laquelle il a promis qu'il y aurait zéro licenciement et au contraire des embauches. Il a promis un certain nombre de choses et dès que le deal a été signé, non seulement il n'y a pas eu d'embauche, mais il y a eu 800 licenciements. Il a abandonné à son sort tout ce qui pouvait l'être. Il y avait des JV à 50-50 pour lesquels on devait consolider les partenariats. On a finalement vendu les 50% restants ultérieurement parce qu'on n'a pas levé les options pour rester dans ces partenariats et on a perdu toute souveraineté, toute maîtrise de l'ensemble des actifs. Donc en fait, ce qui est très curieux, c'est que Olivier Marleix, qui a semblé faire un rapport sincère, a fait un rapport d'une hypocrisie totale où il enfonçait le président Macron, ce qui était tout à fait légitime, et son gouvernement, mais il protégeait les Pécresse.
C'était la décision du président de vendre.
C'était la décision du président, sauf que les négociations se sont faites avec les Pécresse, avec Clara Guémard, et que tout ceci arrangeait parfaitement les affaires des Pécresse, Jérôme et donc de sa femme Valérie. Et il n'est pas normal que M. Marleix, qui a semblé être le monsieur propre de l'affaire Alstom, ait eu le toupet d'accepter un poste près de Valérie Pécresse pour être son directeur de campagne sans aucun état d'âme.
Il a été directeur de campagne de Valérie Pécresse.
Là, il était extrêmement impliqué pour sa campagne. Il a été en première ligne pour sa campagne. Ah oui, j'en suis tout à fait sûre.
Il soutenait M. Barnier.
Alors, attention, je ne parle pas des candidatures pour le premier tour, pour choisir le candidat aux élections présidentielles. Et c'est d'autant plus étonnant d'ailleurs, parce qu'effectivement, il ne soutenait pas Valérie Pécresse, mais quand Valérie Pécresse a été choisie, il est devenu son directeur de campagne. Donc, il a eu une attitude tout à fait ambiguë vis-à-vis d'elle. Enfin, ambiguë non, en fait, il a démontré son amitié, son attachement à la famille Pécresse, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte, c'est toujours la question, quoi qu'il nous en coûte, c'est-à-dire un engagement sans état d'âme, sans moralité, et tout ça est pour moi extrêmement choquant, extrêmement perturbant. Je dois dire que quand j'avais lu le rapport Marleix, je pensais que Olivier Marleix était quelqu'un au-dessous de tout soupçon. Depuis que j'ai découvert ce qu'il s'est fait attribuer par son père en 2011, ces 557 000 euros tout à fait aberrants en termes d'importance par rapport à l'importance du canton qu'il défendait à l'époque, et attribué surtout par son père, secrétaire d'État, ça c'est tout à fait, on est dans le mélange des genres de façon caractérisée, l'année d'ailleurs où M. Guéant a donné aussi beaucoup d'argent à son fils. Donc quand j'ai vu cette chose-là, 2011, c'était l'année juste avant que son fils se lance pour ses premières législatives, donc c'était un appui très important, hein, évidemment, faire une salle de spectacle pharaonique à Annette et un certain nombre de projets, tout ça n'est pas normal. C'est cette politique spectacle, cette politique combine que nous voulons condamner fermement et faire cesser.
Appuyez sur un sujet qui
vous
est cher.
Un sujet très puissant.
Oui, enfin, vous êtes aussi là pour parler de votre candidature.
Oui, bien sûr.
De ce que vous allez faire dans votre canton. Donc, on pourrait vous poser des questions qui intéressent plus les Drouais.
Oui, bien sûr.
Mais juste avant, lorsque vous avez renoncé à votre poste de directrice administrative et financière dans le privé, donc, oui. Vous disiez « Je ne voulais pas tremper dans des malversations. J'ai conscience de tout ce qui se passe de malhonnête dans le monde financier » et politique. J'ai la compétence pour lutter contre ça. Diriez-vous qu'il faudrait en France une espèce d'opération manipulitée comme on a eu en Italie dans les années 90 ?
Alors, je vais préciser mes propos parce qu'ils sont étayés par des choses extrêmement graves. J'ai quitté dans ma vie de directeur administratif et financier, et c'est important de parler de cette vie-là parce que c'est ça aussi qui me donne la compétence pour me présenter aux électeurs comme députée aux élections législatives. C'est-à-dire que moi, je sais ce que c'est que de gérer des montants importants, des projets importants, de travailler pour le long terme. J'étais directeur du contrôle financier et des fusions-acquisitions du groupe Lagardère. C'est un groupe qui faisait à l'époque 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc voilà, je peux gérer des enjeux financiers extrêmement importants. Je suis très à l'aise dans tous les milieux, y compris internationaux, puisque j'ai beaucoup travaillé à l'international. Il faut savoir que dans cette carrière que j'ai menée pendant 30 ans dans des groupes cotés en bourse et dans des filiales de fonds de pension, j'ai été obligée deux fois de quitter mon poste parce que j'avais été témoin de malversations et que j'ai voulu faire cesser ces malversations et que j'ai dit voilà, ces malversations doivent cesser et la personne qui les a pratiquées doit quitter l'entreprise. Dans les deux cas, je n'ai pas été entendue. La première fois, il s'agissait de deux malversations de la même personne sur deux années. La première année, je me suis mise très en colère. La deuxième année, j'ai dit « je veux sa tête, on ne peut pas garder cette personne ». Et on m'a dit « on ne peut pas virer cette personne, elle est trop influente ».
Donc j'ai vous êtes partie.
Moi, je m'en vais. Et la deuxième fois, en fait, on m'a demandé, pour vous donner un ordre d'idée, de déclarer du crédit impôt recherche, c'est-à-dire demander de l'argent à l'État sur de la recherche, ce qui est un système très, très bien et que je trouve tout à fait intéressant pour défendre nos industries. On me demandait de faire une déclaration de crédit impôt recherche à hauteur de 2 millions d'euros, dont 1 million d'euros sur la base de documents falsifiés. Voilà comment l'État français est grugé en permanence par toutes sortes de gens, que ce soit les établissements publics, on va parler après des détournements de fonds dans la politique, qui sont un des sujets aussi qui me scandalise et qui est la cause de mon engagement, qui est la cause aussi de l'engagement extrêmement fort de ma suppléante Florence qui est avec nous. Voilà, cette espèce d'incurie dans la gestion du pas vu, pas pris, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, toutes ces choses-là, je les connais par cœur de l'intérieur, j'en ai énormément souffert, je les ai combattues. Quand la deuxième fois, j'ai quitté à nouveau un groupe, j'ai eu besoin vraiment de me ressourcer, de retrouver du sens à ma vie. Et c'est pour ça que je me suis engagée auprès du diocèse de Paris, parce que je me suis dit, je ne peux plus me lever le matin pour un voyou. J'ai besoin de faire des choses qui sont complètement désintéressées pour des gens qui ont vraiment besoin de moi, qui veulent vraiment apporter quelque chose. Alors, soyons transparents, mes enfants étaient grands, j'avais la possibilité financièrement de m'offrir ce luxe, de me donner ce grand bol d'oxygène. Et je me suis donné un grand bol d'oxygène parce que donner du bonheur autour de soi, donner du sens à sa vie, en partageant tout ce qu'on peut faire pour aider les autres, c'est beaucoup, beaucoup de joie.
Vous avez trois projets.
Oui.
Protection, travailleurs et pouvoir d'achat.
Oui.
Soutien aux industries et agriculteurs, pour notre département ça tombe très bien. Déserts médicaux, réintégrer les soignants évincés car non vaccinés et maintenir les aînés à domicile. Les seniors sont d'ailleurs très attachés à cette perspective. Est-ce que les problèmes rencontrés dans les EHPAD et hors PA en particulier en sont la cause à votre avis, madame ?
Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, il y a deux sujets dans votre question. D'abord, il y a une souffrance médicale et hospitalière qui est extrêmement ancienne, puisqu'en fait, les médecins viennent au monde de la médecine grâce au fait qu'il y ait assez de médecins formés. Hein, ça semble très bête, mais il y a eu ce système qu'on appelle le numerus clausus, qui était autour de 9000 médecins formables par an dans les années 70. On s'est effondré à 3500 médecins par an. On est remonté vers 6000 médecins par an. Et là, on est en train de remonter tout doucement. Alors, M. Macron, dans son bilan, a annoncé qu'il avait remonté le numerus clausus. On est là, comme d'habitude, dans une vaste plaisanterie.
Il faudrait surtout le supprimer, en fait. Je pense que ce serait quand même...
Le supprimer, il faut que le concours de médecine soit qualitatif. Ce qui est sûr, c'est que l'avoir remonté très légèrement, comme il l'a fait, et seulement dans le cadre d'un décret d'octobre 2021, c'est-à-dire à la toute fin de son mandat, c'est d'une hypocrisie absolue. Quand on sait, évidemment, le trou en termes de nombre de médecins qu'a créé ce manque de médecins formés à cause un numerus clausus beaucoup trop faible pendant des années. On sait qu'il y a 150 000 médecins qui pourraient manquer sur une période flottante d'une vingtaine d'années à une période où il y a une accélération du vieillissement. Donc, on va être face à quelque chose de très problématique. Donc,
une montagne.
C'est une montagne. On est face à une falaise. Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, oui, ça vaudrait la peine certainement de faire des concours plus souples et d'avoir tout à coup non plus des 6 000 ou 9 000 médecins à terme, mais éventuellement des 15 000 20 000 médecins pour combler beaucoup plus vite, évidemment, le trou. Ça, c'est le sujet des médecins. Donc, le numerus clausus qui a changé de nom, il faut faire en sorte qu'il permette de former plus de médecins que ce qui est prévu. Et il faut qu'on aille très vite vers ça. Ça, c'est le premier sujet. Il faut former des médecins. Après, il y a un autre sujet, c'est l'hôpital qui manque de moyens depuis des années. On nous a dit que c'était à cause du Covid, mais il suffit de regarder des archives de télévision pour savoir que tous les ans, depuis au moins 15 ans, on avait un reportage au mois de novembre, disant « Ah, la grippe va arriver, on va manquer de tout à l'hôpital, il va y avoir trop d'urgences, etc. » Parce que oui, l'hôpital est martyrisé depuis une vingtaine d'années, martyrisé par des fermetures de lits d'hôpitaux qui sont en partie justifiée et tout à fait saine du point de vue de la gestion financière.
Le manque d'aide, en fait, le manque d'infirmières.
Alors, voilà. Après, il y a l'organisation qui s'est mise en branle en fonction de ça, qui était, on arrête les hospitalisations et on fait le maximum en ambulatoire, ce qui peut être très bien, à la fois psychologiquement, financièrement, etc. Mais une course à la baisse des effectifs qui a été dramatique parce que elle crée évidemment des conditions de travail épouvantables, mais depuis très longtemps pour le corps médical, pour les urgentistes qui enchaînent des 24 heures régulièrement, ça c'est absolument invraisemblable, pour les infirmières qui ont beaucoup trop de patients à surveiller, pour les aides-soignantes qui ont beaucoup trop de travail. Et donc, on peut avoir du personnel qui devienne maltraitant malgré lui, juste parce qu'il ne peut pas répondre à la demande. Donc, il fait tout vite, vite, vite. Si cette dame-là, elle n'a pas trop râlé, on va lui changer sa couche que 3 ou 4 fois par jour, alors qu'il faudrait peut-être la changer 5 ou 6 fois. Des choses aussi tristes que ça. Ça, c'est la maltraitance et la catastrophe liée aux choix financiers et d'organisation de l'État qui sont scandaleux et qui sont allés de pair avec un accroissement considérable des normes administratives, des reportings, des Excel et des je ne sais pas quoi, qui étouffent tout le système médical. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est la financiarisation de tout ce qui est médical. Pour moi, il est inacceptable que le soin de nos aînés puisse être confié à des secteurs privés. Le secteur privé est là pour gagner de l'argent. Vous fabriquez des voitures, bah oui, vous êtes là pour être rentable, pourquoi pas. C'est le monde de la consommation.
Ces groupes privés bénéficient de beaucoup d'argent public.
Et donc, c'est doublement scandaleux. En fait, ce qui est scandaleux, c'est qu'à la fois, on confie nos aînés à des groupes privés qui ont comme objectif de faire de la rentabilité et qui donc vont économiser sur la nourriture, les couches et les je ne sais pas quoi. C'est absolument atroce. C'est sordide. Et en même temps, il y a beaucoup d'argent public, effectivement, qui est mis en participation dans la création de ces groupes hospitaliers privés. Et ça, c'est inacceptable parce que l'État doit être en mesure d'investir sur des projets à long terme seul et non pas aux côtés de privés pour faire des systèmes coopératifs où on exige de ces établissements qu'ils soient à l'équilibre financièrement, mais sans qu'il y ait aucun argent privé qui circule, sans qu'il y ait d'objectif de dividende, en ayant une maîtrise, parce que c'est très important, ça je vais revenir sur ce sujet, le contrôle à tous les niveaux, c'est extrêmement important pour qu'il n'y ait pas de magouille sur le lieu où l'établissement est construit, sur les prestataires qui sont pris pour construire l'établissement, toutes les horreurs qu'on a vues à l'époque de l'ancien maire, monsieur Hamel, qui était dans des confusions énormes avec des SCI dans tous les sens, avec son gendre, sa belle-fille et je ne sais pas qui. Voilà, il a été condamné pour ça et ça, c'est le système politique actuel. On fait ses petits arrangements avec le bon Dieu. Ça va bien à un maire, à une communauté de communes d'organiser la création d'un établissement public ou semi-public pourvu qu'il puisse y avoir des enveloppes pour toucher de l'argent avec l'ensemble des personnes, des BTP qui vont être appliquées. C'est le quotidien. On l'a vu au Parlement maintenant. C'est tellement le poisson qui pourrit par la tête que tout le monde pique dans la caisse. On s'achète des petites culottes. On se paye des voyages à Marrakech. Ça part dans tous les sens. Tout ça doit cesser. Et il faut, je pense, et c'est pour ça que je me présente, il faut des financiers qui ont eu l'habitude de gérer très strictement, qui ont des méthodes de travail, des méthodes d'audit, des méthodes de contrôle de gestion pour mettre fin à tout ça. Après, il y a aussi les lois. Moi, je ne sais pas du tout pourquoi un député aujourd'hui a autre chose que sa rémunération. La rémunération d'un député est tout à fait convenable. Après, dans les entreprises privées, quand on a des frais à engager, on présente sa note de frais, elle est auditée par un service de contrôle de gestion qui dit « oui, ça, c'est normal qu'on le paye parce que c'est un trajet en train de la circonscription jusqu'à Paris pour une séance à l'Assemblée. Ça peut être éventuellement une rencontre avec un industriel étranger pour obtenir de l'industriel étranger qu'il s'implante dans le département. Effectivement, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, quand on sort de ces univers-là, les invitations à déjeuner dans tous les sens avec n'importe qui, n'importe quoi, les petites culottes, les maquillages et le je ne sais quoi, tout ça, ça doit cesser, c'est intolérable.
Depuis la dernière fois.
Ah ben ça a recommencé, on en a découvert une avant-hier.
Oui, il y a toujours, sur 577, il y a quelques brebis galeuses, c'est certain.
Il y en a beaucoup, hein.
Oui, mais est-ce qu'il y en a, je voudrais surtout pas les défendre,
oui,
hein,
oui,
mais
oui.
Est-ce qu'il y en a tant que ça? D'abord, je n'en suis pas sûr, la plupart, je l'espère, oui, est honnête. Et les frais, juste depuis Macron, depuis 2017, oui, les frais sont maintenant remboursés sur justificatif.
On a vu qu'il y avait quand même.
Mais il y en a qui le font, c'est certain.
Il y avait quand même eu
mais combien ? Pas beaucoup.
Beaucoup d'abus et de gens qui avaient essayé de faire passer des notes de frais frauduleuses et que ces notes de frais avaient été refusées. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a un système d'amnistie automatique pour les gens qui remboursent les dépenses indues. Dans une entreprise, quand vous essayez de piquer dans la caisse, vous êtes viré. Voilà.
C'est aussi d'ailleurs maintenant pour les impôts, il y a un droit à l'erreur ou à l'oubli.
Oui, mais l'erreur et l'oubli, c'est pas la même chose que s'acheter des petites culottes et de voir si ça passe. Voilà.
Alors, vous vous présentez sur Dreux. Le problème actuellement crucial sur Dreux, ce sont les urgences de l'hôpital. Et là, ça va être extrêmement difficile de trouver une solution pour ce problème parce que, apparemment, ils sont en train de vivre une situation complètement ubuesque où il faut que des bénévoles trient les malades qui veulent rentrer aux urgences. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?
Alors, on est dans une situation de crise particulièrement violente. Il y a plusieurs choses. Il y a l'épuisement des personnels. Il y a quand même beaucoup de personnels qui sont partis de façon, ça on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, mais qui sont partis de façon prématurée à la retraite à cause du vaccin obligatoire. Il y en a d'autres qui ont quitté leur fonction à cause du vaccin obligatoire. Il y a des jeunes qui étaient en fin d'études, la fille d'une de mes amies qui était en fin d'études de sage-femme, qui a abandonné ses études de sage-femme parce qu'elle ne voulait pas du vaccin obligatoire. Donc là, on a créé, en fait, je dirais, tous les éléments de l'aggravation d'une crise qui était déjà latente. Alors, il y a deux sujets. Moi, je dis, il faut lever toutes les obligations vaccinales foireuses existantes. Il faut réintégrer tous les personnels qui ont été chassés de l'hôpital.
Ça va être fait. Je pense que ça va être fait.
Non, pour l'instant, la ministre ne veut absolument pas. Il y avait eu une ouverture dans les racontars il y a 3 semaines, mais la ministre a dit qu'elle ne voulait pas. Donc,
Madame Bourguignon.
Oui, elle a dit qu'elle ne le voulait pas.
Parce qu'Olivier Véran avait dit que ça serait fait.
Mais c'était très bien parce qu'il a dit ça juste avant de partir, donc ça ne l'engageait pas trop. Et comme ça, c'était le successeur qui pouvait dire que ça ne se ferait pas. Donc, ils sont toujours très gentils entre eux et prêts à se faire des pots de banane. Mais pour l'instant, elle a fermé la porte. Moi, je dis que c'est une urgence absolue, qu'il n'y a même pas à discuter. Ce n'est pas une question de croyance ou de pas croyance. Je crois que quand on voit le nombre de procès qui sont en cours en ce moment contre les vaccins Pfizer, quand
on voit... Mais là, si vous voulez, le vaccin, c'est quand même une autre problématique. On peut considérer que tous les personnels hospitaliers ont été en contact avec le virus et que donc rien ne s'oppose en tout cas à les réintégrer très vite.
C'est pour ça que je dis que l'obligation vaccinale, étant donné tous les problèmes qu'il y a avec le vaccin, pour moi, et étant donné les formes qu'on a maintenant avec Omicron, n'a absolument plus aucun sens. Donc il faut réintégrer tout de suite tous ces personnels.
Il y a 15 000 personnels actuellement.
Et en France, mais il faut aussi dire à des tas de gens qui sont prêts à venir travailler à l'hôpital, même si vous n'êtes pas vacciné, nous allons vous prendre pour travailler à l'hôpital. Alors, il y a des gens qui vont venir spontanément parce qu'ils seront très contents, parce qu'ils cherchent réellement du travail. Et il y a, là, on boucle du troisième sujet vers le premier sujet, mais je reviendrai volontiers vers le troisième sujet après. Tous ces gens qui ne travaillent pas. On vous dit, le chômage baisse. C'est très bien. De quel chômage parlons-nous ?
Il a remonté un peu, là. J'ai vu ce matin que ça remontait.
Mais on parle de toute façon de 2 millions de chômeurs sur 6 millions de personnes inscrites en demande d'emploi. Donc on ne parle toujours que des mêmes 2 millions de chômeurs. Ils sont 2 millions 2, 2 millions 100, 1 million 9, ça dépend. Tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a 4 millions de personnes qui, par ailleurs, touchent les aides sociales, dont 2 millions qui sont au RSA. Moi, je vais vous dire une chose très simple. Je parle beaucoup avec des tas de gens de la région depuis que je suis en campagne et j'entends tout le temps, et je l'ai encore entendu sur le marché de Brézol le week-end dernier où nous étions, j'entends tout le temps, eh ben oui, moi j'ai une voisine qui est toute seule avec 2 enfants, elle est au RSA, avec ses 2 enfants, elle gagne plus au RSA que moi qui travaille avec le SMIC et qui n'ai droit absolument à rien. Cette situation est absolument intenable. Il faut qu'on fasse vraiment en sorte que les gens qui travaillent soient beaucoup mieux rémunérés que les gens qui ne travaillent pas, et il faut que les gens qui ne travaillent pas et qui durablement manifestent qu'ils n'ont pas l'intention de travailler parce qu'on les connaît, on le sait très bien, j'ai des amis assistantes sociales, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'intention de travailler. Il faut qu'on effondre leurs ressources financières très rapidement et là, ces personnes vont se poser la question de « Ah bah oui, finalement, la vie telle qu'elle doit être, c'est je me lève le matin, je vais travailler, je vais gagner ma croûte parce que tendre la main vers l'assistance sociale, ça n'est pas une solution, ça n'est pas un projet de vie. C'est un dépannage que nous offre une société extrêmement évoluée comme la société française, mais ça ne peut pas être un projet à part entière. »
Alors, Madame Damilly, Pape Ndiaye vient d'être nommée ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Je voulais avoir votre sentiment sur ce sujet.
Alors, mon sentiment, il est très simple. Moi, j'ai des enfants qui ont 27 et 30 ans et qui m'ont dit il y a quelque temps, « Maman, ça n'est pas possible qu'on soit dans le chaos dans lequel on est. Il faut absolument tout changer. » Et c'est pourtant des jeunes qui, il y a 5-10 ans, étaient dans le ventre mou de la pensée droitiste, molle, sans conviction. Pourquoi ? Parce que on ne peut plus avoir maintenant un système d'éducation où au lieu d'apprendre aux enfants à lire, écrire, compter, l'histoire, la géographie, les mathématiques, on leur apprend que rien n'a d'importance, que tout est à l'envers, que ça n'a vraiment aucun effet et surtout que s'ils se sentent Paul au lieu d'être Pauline, il faut qu'ils le disent, qu'on leur change leur prénom. On est dans le matraquage intellectuel, dans le lavage de cerveau, ce n'est pas le lieu de l'école. L'école est là pour l'instruction. L'instruction, c'est tout ce qui permet de faire grandir la tête, tout ce qui permet de faire l'ascenseur social qui a été vraiment l'un des symboles de la réussite française du XXe siècle.
Donc d'ailleurs, ce ministre a manifestement
bénéficié. Absolument, c'est pour ça que c'est d'autant plus choquant. On a l'impression que maintenant, les nouvelles générations de dirigeants, soit n'ont pas d'enfants, et pour Emmanuel Macron, il a fait en sorte de ne pas avoir d'enfants, hein, quand on voit le choix qu'il a fait au niveau de son mariage. Donc, soit n'ont pas d'enfants, donc n'ont aucune préoccupation de ça, soit ne souhaitent pas à leurs enfants tout le bien que l'éducation nationale leur a fait. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Moi, je suis pour des choses extrêmement simples. L'uniforme, mais le vrai uniforme à l'école. Je l'ai vu, j'ai voyagé dans le monde entier, je l'ai vu à Cuba, en Inde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique.
Partout,
vous arrivez quelque part, il n'y a plus de sujet de différence sociale, de différence culturelle, de différence de croyance ou de je ne sais pas quoi. C'est un outil d'assimilation, d'intégration, de fierté et d'identification à l'école qui est absolument fabuleux. Donc, et c'est une aide aussi à la fin de la bagarre financière dans les familles, puisque les pauvres familles qui sont tout le temps sollicitées pour acheter Adidas ou je ne sais quel cartable bidon, il faudrait leur dire non, pas du tout, on va vous fournir des choses pas chères, si possible, ce serait bien que ce soit fabriqué en France, justement, tous les uniformes des enfants. Et on dit, tout le monde est habillé pareil, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Et là, on aurait des progrès immédiats. Il faut qu'à l'école, il y ait de la discipline. La discipline, ça veut dire que les enfants qui vont bénéficier de l'instruction doivent manifester tout ce qui est appris par l'éducation à la maison. Les parents sont responsables de l'éducation, l'école est responsable de l'instruction. Si des parents donnent une éducation qui n'est pas compatible avec le fait d'envoyer les enfants à l'école, c'est-à-dire si on a l'impression que les enfants sont incités à être contre ce qui est instruit, enseigné à l'école, il faut sanctionner les parents, et y compris jusqu'au portefeuille, quand ce sont des familles qui sont bénéficiaires des aides en France. Si on vient en France, qu'on envoie son enfant dans l'école publique, c'est une chance immense que d'accéder à l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. On doit en montrer de la reconnaissance, et la reconnaissance, ça passe par le respect des professeurs, le respect des petits camarades, pas de harcèlement des camarades, pas de menaces des professeurs, pas de comportement disruptif et incompatible avec la vie en société à l'école. Voilà, ce sont des choses mais extrêmement simples. On arrive dans une école et on décide de mettre ça en place. Je vous assure que j'ai mené des projets beaucoup plus complexes que ça, sans aucune difficulté.
Au revoir Jean-Marie, au revoir Madame. Agnès Damilly, merci d'être venue dans l'écho de ma commune. Nous retrouvons Django Reinhardt avec Echoes of France, enregistré à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au revoir Madame et merci d'avoir été là.
Un immense merci à vous et à très bientôt.